Marmite fait son actu tous les mercredis de 17h à 18h en direct sur Marmite FM 88.4. Retrouvez toute l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Revue de presse, cinéma, consommation responsable, agenda culturel et sportif, nos invités vous parleront de leur actu. Marmite fait son actu, une émission présentée par Nouradine Agne sur Marmite FM 88.4.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4. Je suis Laure Delmeda et on est ensemble pour une heure pour parler de l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et de ses environs. Nous accueillerons cette semaine Dominique Ruffier qui est secrétaire général du syndicat Force Ouvrière des Yvelines. Il viendra échanger avec nous sur la réforme des retraites. Nous aborderons avec lui les principales mesures de la réforme et les mobilisations à venir pour s'y opposer. Je vous proposerai ensuite de réécouter Émilie Ruffier, qui est chargée de mission à l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie et du climat. Elle était venue la semaine dernière pour répondre aux questions de Nouradine Agne sur l'empreinte numérique environnementale. Bien sûr, comme toutes les semaines, les autres chroniques de Marmite fait son actu seront au rendez-vous. Dans sa minute conso, Pierre Joannet nous parlera des astuces commerciales utilisées pour cacher la hausse des prix. Et vous retrouverez le journal d'actualité locale dans quelques minutes, mais tout de suite un peu de musique avec Find an Island de Bini.
Find an island far away from me. A ship at dust at sea where nobody goes, no search party. Nobody knows but me. Both share a single rope, trying to stay afloat. The treasure that you blew when I was tied to you. We reeled each other in, got caught up in the wind. Our sails they pulled too hard, and we fell off our rock. If our own mistakes are too much to take, if it just won't work and we can find a way, maybe our maps go different ways, go different ways. Find an island far away from me. A shipwreck that's at sea where nobody goes, no search party. Nobody knows but me. Find an island far away from me. A shipwreck that's at sea where nobody goes. Nobody knows but me. Find an island. Find an island. Slowly you drifted off, putting us on the rocks. No longer want to know where you make plans to go. I built this boat to last. You chose to move too fast. A storm has swept right through and washed away your view. If our own mistakes are too much to take, if it just won't work and we can find a way, maybe our maps go different ways, go different ways. Find an island far away from me. A shipwreck that's at sea where nobody goes, no search party. Nobody knows but me. Find an island far away from me. A shipwreck that's at sea where nobody goes, no search party. Nobody knows but me. Find an island. Find an island. And if our own mistakes are too much to take, if it just won't work and we can't find a way, maybe our maps go different ways, go different ways. Find an island far away from me. A shipwreck that's at sea where nobody goes, no search party. Nobody knows but me. Find an island far away from me. A shipwreck that's at sea where nobody goes, no search party. Nobody knows but me.
C'était Find an Island de Bini sur Marmite FM 88.4. Et tout de suite, le journal d'actualité de Marmite fait son actu. Pour commencer ce journal, je vous propose de parler d'un sujet qui nous concerne toutes et tous. Le Haut Conseil à l'égalité a publié en début de semaine le baromètre du sexisme de 2023. Je vous propose donc d'en aborder les principales observations. Tout d'abord, le baromètre est basé sur les réponses d'un échantillon de 2500 personnes représentatives de la société. Il fait état d'une situation alarmante malgré des avancées incontestables en matière de droits des femmes. Ce qui inquiète surtout à la lecture du rapport, c'est l'ancrage d'une pensée masculiniste chez les jeunes hommes de 25 à 34 ans. En effet, 23% d'entre eux considèrent qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter, et parmi les 15-24 ans, 4 femmes sur 5 estiment qu'il est difficile d'être une femme dans la société. Autre point important du baromètre, la question des violences sexuelles. Plus d'un tiers des femmes affirment avoir déjà subi un rapport non consenti. De leur côté, 16% des hommes estiment qu'une femme victime d'agression est en partie responsable. On aurait pu croire que la vague MeToo aurait permis d'éveiller les consciences ces dernières années, mais toujours selon le baromètre, 14% de la population n'aurait tout bonnement jamais entendu parler du fameux hashtag. Face à ce constat préoccupant, le Haut Conseil à l'égalité propose un plan d'urgence massif avec 10 pistes pour lutter contre le sexisme. Il incite notamment à augmenter les moyens financiers et humains pour former les magistrats aux violences intrafamiliales. Et il propose d'instaurer une obligation de résultat pour l'application de la loi sur l'éducation sexuelle à l'école. On revient sur de l'actualité plus locale avec la fin d'un cimetière de déchets dans les Yvelines. À Guernes, près de Mantes-la-Jolie, l'organisme Voies navigables de France a en effet repêché 20 tonnes de déchets végétaux et plastiques dans un bras de la Seine, après avoir été alerté par des défenseurs de l'environnement. Les habitants sont appelés au civisme, notamment en amont du fleuve, puisque les déchets viennent s'accumuler dans ces bras morts. La ville de Trappes soutient de son côté la start-up Evolukid dans son projet Qu'est-ce qu'il y a ? L'objectif est d'aider 10 jeunes du territoire à se former au métier de l'intelligence artificielle. Hier soir, une réunion d'information avait lieu à Trappes, dans laquelle Morad Attic, à la tête du projet, a expliqué comment on pouvait être sélectionné à ce programme. Les inscriptions se font sur le site www.evolkid.com et le reportage complet sur ce projet sera à retrouver la semaine prochaine dans Un micro dans la ville. Le vélo-club d'Elancourt et Saint-Quentin en Yvelines a présenté cette semaine sa toute nouvelle équipe féminine. Il est le premier club du département à avoir une équipe de division nationale en masculine et en féminine. Il compte maintenant dans ses rangs 10 jeunes coureuses, parmi elles Lara Lallemand, 18 ans, a été champion du monde junior en poursuite par équipe cette année. Elle mise sur le vélo club pour l'aider à passer le cap entre les compétitions juniors et l'élite. Une piste d'apprentissage du vélo a d'ailleurs vu le jour à Morpa. L'idée avait été soumise par une habitante de la ville lors du budget participatif de 2021. Le projet avait donc été sélectionné et financé à hauteur de 10 000 euros. La piste se situe le long du boulevard de la Loire et va permettre aux enfants d'apprendre à maîtriser leur vélo et de suivre un parcours en respectant le marquage au sol. Les projets retenus lors du budget participatif de 2022 devraient bientôt être réalisés eux aussi. Vous écoutez toujours Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4. Et s'il y a bien un sujet au cœur de l'actualité en ce mois de janvier 2023, c'est celui de la réforme des retraites. Pour en discuter, il est l'heure d'accueillir Dominique Ruffier, notre invité de la semaine.
L'invité de Marmite fait son actu, c'est tout de suite sur le 88.4.
Dominique Ruffier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire du syndicat Force Ouvrière dans les Yvelines.
Tout à fait, oui.
Et donc vous êtes venu parler avec nous de la réforme des retraites, donc c'est un peu le sujet de ce début d'année 2023. Mais avant d'entrer dans les détails avec vous, j'aurais aimé revenir un peu sur le système actuel des retraites et sur l'historique des retraites. Donc le système des retraites a été mis en place en 1945, en même temps que la naissance donc de la sécurité sociale. Il est fondé sur un principe de solidarité entre les générations, donc on parle de retraite par répartition, c'est-à-dire que les actifs cotisent pour payer les retraites des retraités. Et donc en 1982, sous François Mitterrand, l'âge légal de départ à la retraite passe à 60 ans. À ce moment-là, il faut 37 ans et demi de cotisation pour toucher sa retraite à taux plein. Et depuis, les réformes et les tentatives de réforme se sont enchaînées. L'argument principal à chaque fois des gouvernements étant l'augmentation du chômage et le vieillissement de la population, qui signifiait donc moins d'actifs pour plus de retraités. Depuis 2010, l'âge de départ est fixé à 62 ans et depuis la réforme Touraine de 2014, le nombre de trimestres à cotiser pour atteindre le taux plein augmente. Donc il augmente tous les 3 ans depuis 2020 pour atteindre normalement 43 ans de cotisation en 2035. Et la nouvelle réforme veut accélérer tout ça, on y reviendra tout à l'heure. Mais ma première question, donc, monsieur Ruffier, porte sur la mobilisation. 1995, on voyait déjà plus de 2 millions de personnes dans les rues contre l'allongement du temps de cotisation. La semaine dernière, il y avait donc une première journée de mobilisation qui était organisée par les syndicats partout en France. On parle également de 2 millions de manifestants. Pourquoi ces réformes des retraites mobilisent autant ?
Mais écoutez, de toute façon, ces réformes touchent tout le monde. On sait très bien que quand on commence à travailler, on aura une fin à notre carrière. Et c'est quelque chose qui, de toute façon, est dû, en fait. À partir du moment où on cotise pendant son travail, obligatoirement, on doit avoir un retour. Or, actuellement, on s'aperçoit que ce retour s'éloigne de plus en plus, ce qui n'était pas prévu au départ. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé à travailler, pour parler à titre personnel, c'était 37 annuités et demie. Maintenant, nous sommes à 40 et nous augmentons 40, 41, 42. Et le recul de l'âge de la retraite, de l'âge de départ en retraite, va nous faire partir de plus en plus tard.
Donc justement, c'est une réforme qui touche tout le monde. Et j'aimerais revenir avec vous donc, sur les points principaux de la réforme. Celui qu'on entend le plus, c'est le recul de l'âge de départ, justement, qui sera progressivement allongé jusqu'à atteindre 64 ans en 2030. Le gouvernement le justifie notamment par l'allongement de l'espérance de vie des Français. Pourquoi, selon vous, au contraire, il est important de le garder à 62 ans ?
Ben, écoutez, l'allongement de l'espérance de vie, il est aussi dû au fait qu'on arrête de travailler tôt. La retraite est une cause, si on peut dire comme ça, de l'allongement de l'espérance de vie. À partir du moment où on va commencer à reculer l'âge de la retraite, l'espérance de vie, et notamment l'espérance de vie en bonne santé, va baisser.
Mais justement, selon les chiffres de l'INSEE, l'espérance de vie en bonne santé actuellement, il a 63 ans en France. Et il est aussi différent selon les milieux sociaux. Donc il y a des milieux qui vont être plus touchés que d'autres.
Oui, alors ça c'est une réalité. Mais de toute façon, quel que soit l'âge de départ en retraite, on retrouvera cette différence dans les milieux, les catégories socio-professionnelles.
Et donc une autre mesure qui rejoint un peu celle-ci, c'est l'allongement cette fois de la durée de cotisation. Pour toucher sa retraite à taux plein. C'est donc une mesure qui était prévue par la réforme Touraine de 2014, mais qui va être accélérée avec la nouvelle réforme. Au lieu d'atteindre 43 ans en 2035, ce sera en 2027. Donc ça va concerner des générations qui n'étaient pas concernées jusque-là. Qui est-ce qui sera le plus impacté ?
Alors déjà, moi j'ai des collègues qui m'ont dit, ils sont dans ma tranche d'âge, c'est-à-dire autour de 60 ans, ils m'ont dit, moi déjà je prends 2 ans d'entrée de jeu. Et tout ça parce que, vous savez, il y a ce départ qui va commencer au 1er septembre 2023 et ça va aller très très vite en fait. Et là, il y a quelque chose qui ne peut pas nous convenir parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, ça fait partie d'un contrat. C'est comme les régimes spéciaux d'ailleurs. Les régimes spéciaux, quand on rentre dans un travail, on sait qu'on prend sa retraite plus tôt que d'autres collègues. Et brusquement, on nous dit, là maintenant, on recule tout, on change tout. Et ça, c'est inadmissible pour nous. Ça peut pas être. Alors après, on nous dit maintenant, les femmes vont être plus impactées que les hommes. Je sais pas si on peut raisonner comme ça. On veut mettre tout le monde pareil, alors que on nous a parlé d'équité avec les régimes spéciaux. Ces régimes spéciaux, justement, étaient une forme d'équité à l'époque quand ils ont été créés, et maintenant on les supprime. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses à revoir, effectivement, mais plutôt que de faire une réforme des retraites, je crois qu'il y a des sujets actuellement qui sont beaucoup plus importants.
Justement, en parlant des régimes spéciaux, la réforme fait aussi beaucoup parler du sujet de la pénibilité au travail. Donc on l'entend du côté du gouvernement, du côté de l'opposition. En quoi justement les métiers qui juste là avaient un régime spécial parce que particulièrement pénible vont être impactés par la réforme et comment ça peut être justifié ou non selon vous ?
Alors les anciens régimes spéciaux quand ils ont été mis en place, c'était parce que globalement, dans la profession, il y avait de la pénibilité. Et là, on parlait sur un plan global. Maintenant, on veut faire gérer la pénibilité, comme ça avait été fait pendant un moment, ça a été supprimé d'ailleurs. Si on travaillait dans le bruit, on avait des points de pénibilité. Si on portait des charges lourdes, on avait d'autres points de pénibilité. Et c'est vrai qu'au niveau de la gestion pour l'entreprise, je reconnais, de ce côté-là, c'était pas facile. Maintenant, est-ce que la société, est-ce que le politique doit s'occuper uniquement de l'entreprise ou doit s'occuper du bien-être des citoyens? Là, on nous a parlé de médecine du travail, une visite médicale avant le départ en retraite. Franchement, c'est ridicule. La médecine du travail n'arrive déjà pas à suivre les salariés actuellement. Qu'est-ce que ça va nous apporter de plus de savoir si on part en retraite en bonne santé ou pas pour gagner ou non de la pénibilité? Ça n'a pas de sens.
Donc pour vous, il faudrait garder ces régimes spéciaux. Quelle serait la solution?
Mais si on veut vraiment l'égalité, puisque c'est ça, c'est une des raisons qui sont invoquées régulièrement par le gouvernement, si on veut l'égalité, c'est pas la peine de tirer tout le monde vers le bas. Dans ce cas-là, si on veut plus de régimes spéciaux, on met tout le monde au meilleur des régimes spéciaux.
Donc c'est-à-dire, ce serait quoi l'idéal?
Ben, alors bon, je ne vais pas revenir sur la retraite à 60 ans parce qu'on ne veut plus en parler, mais après tout, je crois qu'avec la robotisation, avec la machine dans l'entreprise, ce serait pas une vue de l'esprit que de penser qu'on peut rediminuer l'âge de la retraite.
Ouais, justement, on entend beaucoup ça parmi l'opposition. Justement, j'étais présente à la manifestation jeudi. Pour justement recueillir la parole des manifestants, j'ai croisé beaucoup de jeunes, donc d'à peu près mon âge, entre 20 et 30 ans, qui étaient inquiets pour leur propre retraite. Selon vous, est-ce que on va vers un recul toujours plus grand de l'âge de départ? Est-ce qu'il faut s'inquiéter justement?
C'est un choix politique, en fait. Hein. Vous parliez de la retraite par répartition tout à l'heure, et Emmanuel Macron, le président de la République, lui, veut visiblement nous faire aller par de la retraite par capitalisation. Donc c'est un choix politique. Moi, je pense qu'effectivement, les 64 ans qu'il nous a gracieusement accordés pour ne pas voir les gens déferler dans la rue, un jour, ce sera 65, 66, 67, il ne faut pas se leurrer. On nous prend toujours les pays européens comme exemple, et évidemment, on nous prend tout le temps les pays qui ont l'âge le plus lointain. Donc je ne vois pas pourquoi, dans l'esprit de nos gouvernants actuellement, on n'irait pas effectivement vers toujours plus.
Mais le gouvernement, justement, il affirme qu'il serait nécessaire de réformer le système des retraites pour éviter qu'il soit déficitaire dans les années à venir. Pour vous, cet argument, il n'est pas recevable, la réforme n'est pas justifiée?
Alors là, je vais être très franc sur le sujet. Lionel Jospin, alors Premier ministre, avait créé un fonds de réserve pour les retraites qui devait aller, qui comblait le déficit éventuel de 2020 à 2040. Ce gouvernement a pioché dans le fonds et maintenant il nous dit le régime est en déficit. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si on nous rend l'argent, après on peut rediscuter des raisons, des véritables raisons. Mais je rappelle aussi que la dernière fois, c'était parce qu'on voulait mettre une retraite à points, soi-disant elle était plus équitable. Après, on nous a dit c'est pour payer l'université, c'est pour payer l'école, c'est pour payer la santé. Donc on a eu toute une panoplie d'arguments qui nous sont arrivés, jamais les mêmes. Et à chaque fois qu'on repose le problème de la retraite, on a des arguments nouveaux. Alors que ça fonctionne. Le corps dit actuellement il n'y a pas déficit, il n'y a pas péril en la demeure.
Oui, justement, le gouvernement s'appuie, donc le corps, sur le Conseil d'orientation des retraites, qui estime que le système serait en moyenne déficitaire sur 30 ans, donc en se basant sur des projections. Mais donc ce même corps dit aussi que le déficit prévu serait d'environ 6 milliards d'euros, ce qui n'est pas si énorme comparé à d'autres dépenses de l'État, et surtout que le système était bénéficiaire ces deux dernières années, donc tout le monde utilise un peu ces chiffres comme il l'entend.
Alors si on ne veut pas utiliser ces chiffres, on peut partir d'un autre principe. Quand on regarde le poids de la retraite dans le PIB sur les 20, 30, 40 dernières années, on s'aperçoit que c'est peu ou prou la même chose. Donc je vois pourquoi on s'en inquiéterait plus maintenant qu'il y a 20 ans, par exemple.
Et donc, parmi les manifestants aussi présents jeudi, beaucoup mettaient en avant qu'il y avait peut-être d'autres problèmes liés au travail à régler avant de s'occuper d'une réforme des retraites et qui pourraient régler justement ce problème de déficit. On parle par exemple du problème de l'emploi des seniors, qui va sans doute augmenter s'ils doivent travailler jusqu'à 64 ans, ou aussi de la question des contrats précaires qui font que beaucoup de Françaises et de Français ne cotisent pas justement pour la retraite. Est-ce que ce seraient des questions justement pour vous qui pourraient être travaillées? Est-ce qu'il y a une solution alternative qui serait réalisable?
Mais écoutez, les entreprises, je vais le dire là vulgairement, virent les seniors, ils commencent à s'occuper de leurs seniors à partir de 55 ans. Tout le monde sait que les pré-retraites, là aussi je le dis vulgairement exprès, les pré-retraites sont payées par Pôle emploi actuellement. C'est-à-dire que quand on a plus de 55 ans, on est licencié, on est à Pôle emploi, on a le droit à 3 ans de non-recherche d'emploi, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors que si les seniors étaient employés normalement jusqu'au terme donc de leur carrière, actuellement 62 ans, ça ferait rentrer 50 milliards dans les caisses de retraite.
Et ça justement, comment est-ce que le gouvernement pourrait jouer sur ces emplois-là? Mais favoriser l'emploi des seniors.
Est-ce que le gouvernement a cette volonté? C'est ça la question.
Mais s'il l'avait justement, quelle solution pourrait être proposée pour aller dans ce sens-là?
Si vous voulez me faire parler de l'index qui a été mis dans l'actualité en nous disant qu'il y aura un index pour mesurer l'emploi des seniors, ce n'est pas suffisant, c'est évident. Après, le gouvernement aide les entreprises pour, par exemple, les jeunes, aide les entreprises pour les travailleurs handicapés, aide les entreprises pour les alternants. Après tout, le gouvernement pourrait très bien aussi aider les entreprises pour les seniors. Mmh. Après, on pourra se demander aussi pourquoi est-ce que la classe 35-55 ans n'est pas aidée. Mais ça, c'est un autre problème.
Et justement, vous le disiez, pour vous, cette réforme, donc c'est un choix politique de choisir de réformer les retraites. Elle bénéficie à qui, cette réforme, alors? Parce qu'on a un peu l'impression que tout le monde y perd.
Au fonds de pension, très certainement, parce que quand on sait qu'on ne pourra plus prendre sa retraite, ou alors le plus tard possible, on va être obligé d'économiser à titre individuel. L'économie à titre individuel, c'est les fonds de pension. Et les fonds de pension, c'est ce qui s'est passé en 2008 avec les krachs boursiers en série, en rafale, parce qu'un fonds de pension ne donne pas la garantie que donne la retraite par répartition.
Ouais, donc c'est-à-dire que les travailleurs vont peut-être plutôt épargner, mettre de côté pour pouvoir partir à la retraite plus tôt ou avec plus d'argent, plutôt que de continuer à
condition que le fonds de pension ait géré correctement l'argent des salariés, ce qui n'est pas garanti.
Sur la même question, est-ce que cette réforme, qui selon vous et selon beaucoup de syndicats est très critiquée, est-ce que finalement elle a quelques points positifs? Je pense par exemple à l'augmentation du minimum de la retraite. Est-ce qu'il y a des choses selon vous dans le texte qui seraient à conserver?
Alors je crois que cette augmentation du minimum retraite a été déjà prévue avant et n'a pas été mise en place encore. Donc commençons par mettre en place ce qui est prévu et après on pourra reparler sérieusement.
Et donc le projet de loi a été présenté ce lundi en Conseil des ministres. Le gouvernement espère faire en sorte que les débats aillent vite. La Constitution prévoit un délai maximum de 20 jours en première lecture. Quel poids, selon vous, peut avoir la mobilisation et quel est l'objectif, par exemple, pour la semaine prochaine où une nouvelle journée de grève est prévue?
Mais le poids de la mobilisation, c'est toujours la même question. C'est qu'on sait comment ça commence, on ne sait jamais comment ça finit. Là, vous avez vu, vous en avez parlé, il y avait des jeunes dans la rue. Mmh. C'est vrai que le fait qu'il y ait des jeunes, ça a toujours inquiété les gouvernements. D'abord parce qu'il y a des dérapages avec la police. Là, je jugerai pas sur ce sujet-là, mais ça a toujours inquiété les gouvernements. Après, la mobilisation, si c'est du type CPE, par exemple, CPE, la mobilisation avait monté. Et lorsque nous sommes dans un mouvement comme ça, qui accélère, qui s'amplifie, obligatoirement, le gouvernement est obligé quand même d'en tenir compte. On ne peut pas, dans un régime démocratique, on ne peut pas gouverner contre le peuple, en fait.
Mmh. Bah, jeudi dernier, donc le 19, après la première journée de mobilisation, le gouvernement avait l'air de dire qu'il fallait plutôt continuer à faire de la pédagogie autour de la réforme. Il n'avait pas l'air prêt à céder quoi que ce soit. Est-ce que justement c'est quelque chose qui va prendre du temps?
Vous savez, la pédagogie, si elle est menée comme elle était menée jusque-là, faut avouer qu'elle n'est pas très bonne. Moi, je pense que ça peut prendre du temps, mais je pense aussi que les salariés sont vraiment remontés. Parce qu'à la différence de la réforme précédente qui était proposée, la retraite par points, elle était incompréhensible. Donc, on pouvait facilement faire de la pédagogie lorsqu'on a quelque chose d'incompréhensible et que les gens, finalement, restent dans l'attente. Là, cette réforme, elle est compréhensible. Tout le monde y perd. Comme ça, au moins.
Et donc, la nouvelle journée de mobilisation, elle est prévue le 31 janvier. Est-ce que, au-delà de cette journée-là, il y a déjà une mobilisation plus longue qui est prévue? Comment les syndicats s'organisent autour
de ça? Oui, très certainement, parce que là, on voit bien, actuellement, on n'a même pas le temps de réserver les cars, en fait. Et quand on téléphone à un voyageur, il nous dit « j'ai déjà plus de cars ». Et c'est vrai que les salariés sont très en demande. Donc, on pense que ça va continuer. Il n'y a aucune raison pour l'instant pour que ça s'arrête, d'autant que le gouvernement ne fait vraiment aucun effort. Il va nous dire « je vais assouplir », aussitôt après, il y a un démenti qui tombe. Les concertations, on les connaît, c'était pas des concertations. Je veux dire, on a reçu les syndicats, les ministres, comment le Premier ministre, la Première ministre a reçu les syndicats, et il n'en est rien ressorti, en fin de compte. Il fallait repartir avec l'idée de la Première ministre. Ça, ce sont pas des concertations, ça.
Et plus particulièrement dans les Yvelines, vu que donc vous êtes secrétaire général de Force ouvrière dans les Yvelines. Est-ce que vous avez quelques chiffres sur la mobilisation de la semaine dernière et sur ce qui s'annonce peut-être
Alors, nous on a société de particulier en Ile-de-France, on manifeste à Paris. Donc, je n'ai pas de mobilisation sur le département. Par contre, ce que je sais, moi, c'est que ça fait maintenant 20 ans que je suis à ce poste. C'est la première fois que j'ai autant de salariés qui me demandent des quarts. Ça, c'est un signe, en fait. On compte en quart, je suis désolé. Mais...
Donc oui, justement, vous, votre rôle, c'est d'organiser la mobilisation, de faire en sorte que tout le monde puisse aller manifester ?
Ah, le plus possible, en tout cas, bien sûr, oui. De laisser personne sur le carreau quand il faut défendre nos acquis.
Bah, merci, Dominique Ruffier, d'être venu répondre à nos questions. Vous êtes toujours sur Marmite FM, et tout de suite, une petite pause musicale.
Demain, on est comme sur ma cover, à deux sur une bécane. On évitera les accidents, c'est très grave. On peut plus vivre inconsciemment, je veux ni monter au ciel, ni côtoyer les étoiles. Pourtant là-haut, y'a trop de monde qui m'attend. De la famille, des potes et même certains de leurs parents. Je pense à eux, je suis pas bien. Quand la lumière s'éteint, c'est pas pour autant que je me laisse aller ou que j'allume un joint. Non, laisse-moi loin des vices et des gens. Moi qui s'invente des vies, maman me reconnaît toujours, je me laisse pas faire. Et je suis pas dans le déni, je n'ai sacrifié. Évita, tu le bénis, bientôt je vais quitter le pays. Besoin de prendre l'air, je viens de là où les gens ont très peu de chances de finir centenaire. Des problèmes d'argent, des problèmes dentaires. J'oublie l'essentiel, le bonheur, la famille. Les années passent vite, c'est maintenant il faut qu'on s'active. C'est au début que les meilleurs partent. Et nous on est tous là, bien accompagnés ou même tout seul. J'ai perdu ma boussole, j'ai trouvé la couronne, mais j'en veux pas. C'est au début que les meilleurs partent. Et nous on est tous là, bien accompagnés ou même tout seul. J'ai perdu ma boussole, j'ai trouvé la couronne, mais j'en veux pas. Quand t'es enfermé, changer c'est comme le Graal. Et en parlant de liberté, quand je vais à Londres, on s'inquiète moins du port du voile assis avec Sophie dans un parc de East London. J'entends les rires d'enfants, combien même que les parents déconnent. C'est toute leur insouciance qui résonne dans ma tête. Et je m'en veux leur laisser un monde si triste et dangereux. Égoïste et dans le feu, on joue avec les DM, les cœurs, les corps. Et la peur d'être hors jeu, sûrement qu'un jour on sera heureux. Mais la terre, elle sera pas en paix, frère, ça fait de la peine. Tous les mêmes vacances, tu m'as vu faire du quad dans le désert. On parle jamais d'amour. On dira t'y arriveras pas sans déter. Pas facile d'aimer ce qu'on fait quand on n'a pas fait d'études. Tu travailles comme un chien, t'allumes ton snap, tu les vois pas le pé des thunes. C'est vrai que c'est réel, c'est pas les métiers les plus durs qui rapportent le plus de bénéfices. C'est au début que les meilleurs partent. Et nous on est tous là, bien accompagnés ou même tout seul. J'ai perdu ma boussole, j'ai trouvé la couronne, mais j'en veux pas. C'est au début que les meilleurs partent. Et nous on est tous là, bien accompagnés ou même tout seul. J'ai perdu ma boussole, j'ai trouvé la couronne, mais j'en veux pas. C'est au début que les meilleurs partent. Et nous on est tous là, bien accompagnés ou même tout seul. J'ai perdu ma boussole, j'ai trouvé la couronne, mais j'en veux pas. C'est au début que les meilleurs partent. Et nous on est tous là, bien accompagnés ou même tout seul. J'ai perdu ma boussole, j'ai trouvé la couronne, mais j'en veux pas.
C'était Couronne de Giorgio qui sortira son nouvel album le 3 février prochain. Vous écoutez Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4. Émilie Ruffier était l'invitée de Noura Dinhan la semaine dernière. Elle travaille à l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie et du climat, et elle était venue donner des solutions pour réduire notre empreinte numérique environnementale. Je vous laisse réécouter ses conseils et ses explications.
L'invitée de Marmite fait son actu, c'est tout de suite sur le 88.4.
Émilie Ruffier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de mission énergie à l'ALEC de Saint-Quentin-en-Yvelines, donc l'Agence locale de l'énergie et du climat. Le thème de notre interview du jour, c'est l'empreinte numérique environnementale. Vous allez nous donner des chiffres clés sur cette pollution numérique et surtout nous dire comment réduire cette empreinte numérique environnementale lors de nos achats, par exemple, ou de l'utilisation de nos appareils. Nous évoquerons en fin d'émission la trace numérique et comment la réduire. Alors peut-être avant de commencer, Émilie Ruffier, à parler de notre thématique, la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, est-ce que vous pourriez présenter à des auditeurs, des auditrices qui ne connaîtraient pas encore l'ALEC de 50 ans en Yvelines, nous présenter l'ALEC.
Oui, tout à fait. L'ALEC, c'est l'Agence locale de l'énergie et du climat de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc, c'est une agence d'ingénierie territoriale de proximité au service des collectivités locales. Elle promeut et accompagne la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique par le biais de différentes missions. On va avoir des missions de conseil et d'accompagnement qui vont être à destination des particuliers, des copropriétés, des collectivités et des entreprises. Et puis des missions d'information et de sensibilisation qui, là, seront à destination du grand public, des scolaires et des professionnels.
Très bien, c'est clair. Alors, on va commencer cette émission avec notre thème, le thème qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, c'est l'empreinte numérique environnementale. Est-ce que vous pourriez d'abord définir ce terme d'empreinte numérique environnementale ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, en fait, l'empreinte environnementale du numérique, ça va être l'ensemble des impacts sur l'environnement que vont représenter en fait les services du numérique. Donc, il y a bien évidemment les émissions de gaz à effet de serre, mais ça va aussi au-delà de ça. Ça va intégrer notamment les consommations de ressources qui ne sont pas renouvelables, les impacts sur la biodiversité, l'eau et puis la consommation d'énergie. Mmh.
Alors, quelques chiffres pour comprendre l'importance de l'impact du numérique sur l'environnement. Je vais vous donner quelques chiffres et puis vous allez me dire à quoi ça correspond. On commence avec le chiffre 2,5%.
Alors, ça, c'est le pourcentage du secteur du numérique sur l'empreinte carbone totale de la France. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que si rien ne change, ce chiffre va passer à 6,7% en 2040. Donc, il est temps d'agir.
Alors, 6 250 000.
Alors, ça, c'est le nombre de tonnes de ressources qui sont extraites chaque année pour produire et utiliser les équipements du numérique. Donc là, on constate également que c'est un chiffre assez énorme.
10%.
Alors ça, c'est la part des services numériques sur la totalité de la consommation électrique en France.
Ah oui, ok, donc 10%. Oui. 15 000 kilomètres.
Alors ça, c'est un chiffre assez étonnant. C'est la distance moyenne parcourue par une donnée numérique. Donc quand on dit données, ça peut être un mail, un téléchargement, une vidéo ou une recherche sur Internet, par exemple.
Oui, parce qu'on pourrait se dire, par exemple, qu'un mail va d'un point A à un point B directement à la personne destinataire. Mais bon, c'est plus compliqué que ça. Le circuit
exactement.
Est beaucoup plus long.
Ouais. Oui.
8,9.
Alors ça, c'est le nombre moyen d'équipements par personne en 2021 en Europe occidentale. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que ce chiffre, il était de 5,3 en 2016.
Donc,
Là, il y a eu une forte augmentation, en peu de temps.
10 milliards.
Alors 10 milliards, c'est le nombre de mails qui sont échangés en moyenne en une heure dans le monde.
En une heure, 10 milliards.
Oui.
Donc c'est énorme. D'ailleurs, exact. Puisqu'on parle du mail, et ce sera notre dernier chiffre, sous forme de question cette fois-ci, quelle est l'empreinte d'un mail, justement, avec ou sans pièces jointes ? Parce qu'on sait quoi, là, on en voit souvent des mails avec des pièces jointes, voilà, qui sont plus lourds donc, que les sans pièces jointes. Voilà. Quelle est l'empreinte carbone d'un mail ?
Alors, un mail sans pièces jointes, on va être sur 4 grammes de CO2 par mail, tandis qu'un mail avec pièces jointes, on sera sur 35 grammes de CO2. Donc la différence, elle est vraiment énorme et ça vaut le coup de se poser la question de mettre une pièce jointe quand on envoie un mail.
Donc 8 fois plus avec une pièce jointe, donc oui, effectivement, oui. C'est très important. Alors merci déjà pour ces premières réponses, Émilie Ruffier. Pour mieux comprendre l'impact du numérique sur l'environnement, on peut prendre l'exemple du cycle de vie d'un ordinateur portable. Bon, on le sait, l'ordinateur portable, c'est peut-être avec le téléphone portable, un des matériels qui est devenu incontournable pour beaucoup de personnes et qui a des conséquences sur les gaz à effet de serre notamment. Est-ce que vous pourriez nous expliquer justement, nous raconter ce cycle de vie d'un ordinateur portable ?
Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que quand on parle de cycle de vie, en fait, ça va comprendre différentes étapes. Donc, on va avoir la fabrication, le transport, la distribution, l'utilisation de l'équipement, la fin de vie ou alors une éventuelle valorisation de l'équipement. Ce qu'il faut savoir, c'est que la fabrication d'un ordinateur, par exemple, qui va peser 2 kilos, ça va nécessiter 800 kilos de matière première.
800 kilos oui. de matière première pour un ordinateur portable.
Exactement.
De 2 kilos.
Oui, c'est ça. Et ça va représenter 124 kilos de CO2 qui vont être générés. Et sur la totalité du cycle de vie, on est à 169 kilos qui vont être émis.
D'accord.
Donc ce qu'on voit, c'est quand même que la fabrication voilà, d'un équipement, globalement, c'est l'étape la plus, qui va être la plus émettrice en termes de gaz à effet de serre. Mmh.
Alors venons-en justement aux solutions pour réduire son impact numérique environnemental lors de nos achats de matériel. Alors il faut prendre en compte plusieurs choses. La première, c'est l'indice de réparabilité. Alors qu'est-ce que c'est cet indice ?
Oui, tout à fait. Alors l'indice de réparabilité, donc c'est une note en fait qui existe depuis le 1er janvier 2021. C'est une note en fait sur 10 qui va représenter la facilité à réparer un équipement. Notamment au niveau de la disponibilité des pièces détachées, par exemple, du fait que ça soit démontable facilement. Mmh. Et donc, c'est, voilà, on va avoir cette note sur 10. Plus la note va être élevée, plus l'appareil sera facilement réparable. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve notamment sur les smartphones, les ordinateurs portables et les télévisions.
Donc voilà, à prendre en compte, là, si l'indice est élevé, bah, c'est plutôt une bonne chose. Et s'il est faible, voilà, c'est-à-dire que vous aurez énormément de mal à réparer vous-même votre appareil.
Exactement.
L'autre solution que l'on a, c'est d'acheter, c'est de plus en plus en vogue d'ailleurs, le reconditionné.
Oui, tout à fait. Alors qu'est-ce qu'on appelle le reconditionné ? En fait, c'est un appareil qu'on va réinitialiser, qu'on va éventuellement débloquer, auquel on va faire passer un certain nombre de tests. On va le nettoyer, éventuellement remplacer s'il y a des composants qui sont défaillants. Mmh. Ensuite, il va y avoir un contrôle qualité et puis l'appareil pourra ensuite être revendu. Donc, ça a certains avantages au niveau du prix notamment, puisque ça, on peut être jusqu'à 75% moins cher que pour du neuf. Et c'est un produit qui, malgré tout, est encore sous garantie au minimum pendant un an.
Oui.
Donc, ça vaut le coup, voilà, de se tourner éventuellement vers du reconditionné pour quand on souhaite renouveler un équipement.
Et puis le reconditionné fonctionne bien, voilà, il est sous garantie. Et on peut avoir peut-être l'idée que bon, c'est quelque chose qui a mal marché lors de sa première utilisation et qui sera peut-être pas fiable, mais en tout cas tout est contrôlé. Normalement, reconditionné, ça marche très bien.
Bien sûr. Mmh. Oui, tout à fait. Mmh.
Alors on peut également acheter en fonction, alors ça paraît simple hein, de dire ça, mais ou basique de dire ça, mais acheter en fonction de ses besoins, c'est-à-dire.
Oui, en fait, l'idée, c'est d'acheter un équipement qui va être adapté à l'utilisation qu'on en a, en fait. Donc, c'est, à titre d'exemple, c'est, par exemple, si on souhaite acheter un ordinateur, voir si on se tourne plutôt vers un ordinateur fixe, parce qu'on sait qu'on va l'utiliser chez soi, ou si on s'oriente plutôt vers un ordinateur portable, qui consommera moins en termes de consommation d'électricité. Donc c'est en tout cas étudier ses besoins avant de avant d'acheter un équipement. Et puis il y a la notion aussi d'appareil multifonction. C'est vrai qu'il est préférable d'acheter un appareil multifonction, par exemple une imprimante qui va faire également photocopieur et scanner, plutôt que d'acheter ces trois appareils-là. On aura une consommation qui sera divisée par trois. Dans le cas d'un appareil multifonction.
Parce que sinon, il faudra brancher, faudra trois prises pour trois appareils différents, effectivement.
Exactement, c'est ça.
Alors, il existe également des labels environnementaux pour aider aussi à des achats avec des empreintes numériques environnementales plus faibles.
Oui, tout à fait. Alors, effectivement, on peut aussi se fier à un certain nombre de labels environnementaux. Alors, c'est vrai qu'il y en a énormément et donc c'est difficile de savoir lesquels sont les plus fiables. Mmh. Après, vous avez sur le site de l'ADEME un certain nombre de labels qui sont référencés et qui sont normalement relativement fiables. Donc pour tout ce qui va être pour le secteur du numérique, on va dire, il y a quelques labels qu'on peut citer. Il y a l'écolabel européen, par exemple. Il y a le TCO Certified. Il y a un autre label qui est EPEAT. Enfin voilà, il y a un certain nombre de labels qu'on peut retrouver, notamment sur le site de l'ADEME, pour avant de faire son choix, regarder un petit peu l'explication de ces différents labels.
Voilà, donc l'ADEME, l'agence de la transition écologique, en quelques mots. Alors c'est ademe.fr. Voilà pour le site ADEME, donc ademe.fr. Donc voilà pour les achats, Émilie Ruffier. Maintenant, comment réduire notre impact numérique environnemental, voilà, une fois qu'on a le matériel, voilà, lors de l'utilisation du matériel. Alors, on va commencer d'ailleurs avec une petite parenthèse pour permettre aussi de comprendre dans quel environnement on est au niveau du numérique. D'ailleurs, ça ne concerne pas que le numérique. Hein. Ça concerne beaucoup de... Voilà, ça peut concerner des machines à laver, ça peut concerner plein de choses. Si, bien sûr, si je ne dis pas de grosses bêtises, et si la machine à laver n'est pas considérée comme du numérique, bien sûr. Voilà, ça c'est un autre débat, parce qu'il y a toujours un petit peu de numérique, d'électronique dans ces machines. Voilà, mais est-ce que vous pourriez nous parler de l'obsolescence programmée, ce que c'est exactement ?
Oui, alors en fait l'obsolescence programmée, c'est la réduction volontaire de la durée de vie d'un produit afin d'en accélérer le renouvellement. Donc ça c'est une pratique dont on a beaucoup parlé à un certain moment. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que la France, elle a été le premier pays au monde à interdire cette pratique en 2015. Ouais. Voilà, ça peut être puni de 2 ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, jusqu'à 5% du chiffre d'affaires annuel moyen de l'entreprise. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que 44% des produits électriques et électroniques en panne sont réparés.
Voilà. D'accord.
Pour la parenthèse.
Voilà, donc ça c'était pour l'obsolescence programmée et on retient de vos paroles, hein, c'est que c'est interdit en France, donc illégal depuis 2015, en tout cas ici en France.
Oui.
Alors justement, pour les solutions, pour comment faire quand on utilise notre matériel. Alors la première chose à faire, c'est de protéger et prendre soin de son matériel. Ça aussi, ça paraît, c'est des conseils de bon sens, voilà, si on veut
c'est
les garder
ça,
plus
exactement.
Longtemps.
Ouais. Oui, on est vraiment sur du bon sens, mais c'est vrai que la première des choses, c'est... Voilà, de prendre soin de son matériel et de l'utiliser correctement. Et donc, pour ça, il est nécessaire de consulter les modes d'emploi, les manuels d'utilisation pour savoir quelles sont les conditions pour utiliser l'équipement de manière optimale. Donc ça, vous avez des sites sur Internet pour retrouver les notices si éventuellement vous avez perdu le mode d'emploi de votre équipement. Sachez que il y a des sites Internet pour retrouver le mode d'emploi.
Alors, on peut également réparer plutôt que de remplacer un appareil qui serait défectueux. Vous avez donné un chiffre tout à l'heure par rapport aux réparations. Et puis, je complète peut-être la question avant que vous répondiez. Voilà, si on est vraiment nul, de chez nul, en bricolage, si on n'est pas très habile de ses mains, est-ce qu'il y a d'autres solutions également pour nous aider justement pour réparer ?
Oui, alors vous avez effectivement des annuaires pour trouver des réparateurs. Donc ça, normalement, sur Internet, vous avez possibilité de trouver ces annuaires-là. Alors sachez, petite précision, que depuis le 15 décembre, il existe un bonus réparation pour certains types d'équipements. Sous certaines conditions, vous pouvez bénéficier de ce bonus si vous faites réparer votre appareil. Donc ça, c'est une première chose. Après, vous pouvez décider aussi de le réparer par vous-même, mais en étant aidé, bien sûr, parce qu'on n'a pas forcément tous les compétences pour réparer ces appareils. Mmh. Et pour ça, vous avez ce qu'on appelle des repair cafés. Ouais. Donc c'est des lieux qui se tiennent assez régulièrement et où vous pouvez, avec l'aide d'un bénévole, réparer votre appareil de manière gratuite et vous pouvez repartir avec votre appareil en fonctionnement.
Ouais, surtout quand ça peut être réparé, pourquoi s'en priver ?
Exactement.
Alors venons-en, Émilie Ruffier, à la dernière partie de l'émission concernant donc la trace numérique. Bah, déjà, c'est quoi une trace numérique ? C'est quoi la trace numérique ?
C'est l'ensemble des données en fait que l'on va laisser, sur Internet et qui vont avoir un impact aussi un impact environnemental donc
d'accord.
Sur notre empreinte.
Mmh. Alors, on peut agir sur plusieurs choses pour réduire la trace numérique. La première, c'est agir sur le stockage des données. Alors,
oui,
c'est vrai
oui.
Que, je fais une petite parenthèse, peut-être qu'il y a beaucoup d'auditeurs, d'auditrices qui nous écoutent et qui ont pas forcément, qui savent pas forcément comment sont stockées les données, qui se disent, c'est du numérique, c'est du virtuel, il n'y a pas forcément d'impact.
Oui, alors effectivement, c'est ce qu'on peut se dire en premier lieu, mais il y a effectivement un impact au niveau du stockage parce que ce sont par exemple des serveurs qui qui fonctionne et que l'on doit refroidir en permanence. Enfin, voilà, donc il y a des conséquences qu'on n'a pas forcément en tête, mais qui existent malgré tout. Donc ce qu'on peut faire, c'est notamment utiliser des serveurs de stockage en France ou en Europe, ou alors des serveurs de stockage directement chez soi, en fait, en local. On peut aussi utiliser des logiciels qui vont être libres de droit, par exemple, voilà, parmi les solutions.
Et sur la pratique, justement, quand on fait des recherches sur des moteurs de recherche, etc., voilà, est-ce qu'il y a aussi des moyens de limiter ces traces numériques ?
Oui, alors on peut utiliser des moteurs de recherche, par exemple, qui proposent des actions, c'est-à-dire que pour une recherche sur Internet, on vous propose de financer telle ou telle association, par exemple.
D'accord.
Donc ça, c'est le cas de Lilo, notamment. Ce qu'on peut faire également, c'est rentrer directement l'adresse du site que l'on recherche, utiliser des raccourcis ou alors des favoris, ou alors aller rechercher dans son historique pour retrouver le site en question, parce que plus on va faire de recherches, forcément, plus on va avoir un impact environnemental important. On peut donc taper également des mots-clés précis. Quand on ne consulte plus un onglet, eh bien, faut bien penser à le fermer, c'est tout bête. Mais en fait, si on ne le ferme pas, potentiellement, il peut continuer à s'actualiser et à impacter aussi... à impacter l'empreinte environnementale. Et puis, penser à supprimer également régulièrement les cookies, l'historique de navigation, vider le cache. Toutes ces choses-là peuvent aider effectivement à réduire l'empreinte environnementale du numérique.
Et sur les mails alors les mails, c'est un gros consommateur, gros sujet. Oui. Comment agir sur les mails, justement ?
Alors, vous pouvez choisir une messagerie locale qui stocke en France, par exemple, ou en Europe, ou qui utilise des énergies renouvelables. Donc, à titre d'exemple, il y a Lilo, Mailo. Vous pouvez également trier votre messagerie et stocker en local les mails. Mmh. Et puis, l'idée, c'est aussi de limiter le nombre de destinataires et le poids des pièces jointes. On l'a vu tout à l'heure, effectivement, la différence, elle est assez flagrante entre un mail sans pièce jointe et un mail avec pièce jointe. Donc, faut bien faire attention au nombre de destinataires et surtout aux pièces jointes que l'on va ajouter au mail. Mmh. Et on va préférer également utiliser des liens plutôt que de mettre des documents en pièce jointe.
D'accord. Bon, il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour limiter la trace numérique. Je ne sais pas si vous voulez en ajouter d'autres ou si on a déjà dit le plus gros.
Je pense qu'on a dit l'essentiel pour le coup. Donc après, bon, il y a tout ce qui va être quand on fait du streaming, par exemple. Alors, bien évidemment, on préfère éviter le streaming. Hein. L'idée, c'est quand même d'éviter cette pratique-là, mais si on le fait, plutôt d'utiliser une connexion Wi-Fi et puis, par exemple, éviter la haute définition quand ce n'est pas forcément nécessaire. Voilà, ça peut être des pratiques aussi intéressantes.
Effectivement, quand on regarde un spectacle, par exemple, d'un humoriste qui est seul sur scène, pas besoin peut-être que ce soit de la HD pour le regarder. Alors, il existe un outil pour calculer son empreinte numérique. Comment faire alors pour accéder à ce calculateur ?
Alors, ce calculateur, il est disponible à l'adresse, donc c'est impactco2.fr, donc impactco2.fr, et vous pourrez effectivement calculer votre empreinte numérique. Donc ça vaut le coup d'essayer pour voir un petit peu quel est notre impact au quotidien et voir sur quoi on peut agir ensuite.
D'ailleurs, on peut obtenir d'autres informations sur notre empreinte numérique en regardant notamment nos factures téléphone ou nos factures Internet, c'est ça ?
Oui, alors ça, c'est relativement récent, mais c'est vrai que depuis le 1er janvier 2022, normalement, les opérateurs mobiles et les fournisseurs d'accès à Internet doivent indiquer sur les factures la quantité de CO2 qui va être émise par les activités numériques. Le visionnage de films, envoi de mails, le téléchargement de données. Enfin voilà, c'est normalement une information qu'on doit retrouver sur les factures, notamment des opérateurs mobiles.
Merci beaucoup pour toutes ces informations, Émilie Ruffier. Je rappelle que vous êtes chargé de mission énergie à l'ALEC, que vous aviez fait un webinaire. Hein. C'est de là qu'est partie l'idée justement de faire cette émission, puisque je suis tombé sur ce webinaire qui donnait beaucoup d'informations, notamment pour réduire cette empreinte numérique environnementale. Je vous redonne, chers auditrices, auditeurs, le site de l'ALEC. Vous pourrez aller regarder ce webinaire en détail avec les chiffres. Donc, alecski.org, donc alecsqy.org, alecsqy.org. Merci beaucoup, Émilie Ruffier.
Merci à vous.
Vous êtes toujours sur Marmite FM 88.4 et tout de suite dans Marmite fait son actu, on écoute Mystère Abyssal de MPL.
Tout le monde a déjà entendu des histoires sur les trous d'eau insondables. Chez nous, une rumeur disait qu'à quelques milles de la côte, il y avait une faille très profonde. Un jour, le commandant Cousteau en personne était venu, il avait déclaré « Il est possible qu'elle mène jusqu'au bout du monde. » Nous, on était jeunes à l'époque, on avait peur de rien, il en fallait pas plus pour qu'on s'emballe. On a monté une équipe, on a trouvé un bateau pour résoudre le mystère abyssal. Quand le grand jour est arrivé, tout était prêt, on a largué les amarres. On a navigué jusqu'au trou bleu, guidé par le sonar. On attendait qu'elle remonte, on attend toujours, toujours, toujours. Peut-être qu'elle a trouvé un soleil sous l'eau, bien sûr qu'à cela coule douce. L'un de nous serait désigné au dé pour la plongée. Un double 6 est sorti, on lui a rapporté toutes les pièces du scaphandre et puis elle est partie. Au début, elle nous parlait par radio, la descente semblait belle mais assez vite on a perdu sa trace et les seuls signes de vie que nous recevions étaient les bulles qui rejoignent la surface. On s'est retrouvés seuls avec nos questions insondables. Combien de temps va-t-elle passer là-bas? Est-ce qu'elle va y rester? Pourquoi les autres ne parlent pas? Pourquoi c'est pas tombé sur moi? Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que ça doit venir de moi? On attendait le gong et les heures étaient de plus en plus longues. On attendait qu'elle remonte, on attend toujours, toujours, toujours. Peut-être qu'elle a trouvé un soleil sous l'eau, bien sûr qu'à cela coule douce. A coulé sous les pontons et le temps a repris son cours. On a romancé un peu, c'est vrai, mais le souvenir de cette expédition nous poursuivra toujours. On voulait faire un peu de place aux mystères et aux aventures. Qui veut voyager loin ménage ses blessures. Et on y repense parfois quand il arrive que l'un de nous décroche et se retrouve arraché loin quand on le croyait proche. De nous disparaît sous la surface pour quelque temps, qu'il perd pied aux confiances. On repense à ces bulles qui venaient troubler le silence. On attendait qu'elle remonte, on attend toujours, toujours, toujours. Peut-être qu'elle a trouvé un soleil sous l'eau, bien sûr qu'à cela coule douce.
C'était Mystère Abyssal de MPL. Vous êtes toujours sur Marmite FM 88.4. Il est 17h53 et il est l'heure pour Marmite fait son actu de vous présenter la minute conso de l'UFC Que Choisir. Pierre Joinet nous parle des astuces commerciales utilisées pour cacher la hausse des prix.
La minute consommateur avec Pierre Joinet.
Les industriels sont très inventifs pour intégrer la hausse de leurs coûts de fabrication sans décourager les achats. La crise et l'inflation replacent dans l'actualité des pratiques commerciales anciennes et d'autres plus insolites. Depuis 40 ans, la France n'avait pas été autant confrontée à l'inflation par l'augmentation des coûts. Les industriels s'étaient habitués depuis à se concurrencer sur l'innovation et les prix. Ils sont maintenant obligés d'adopter de nouvelles stratégies pour conserver au moins leur part de marché. Certains de ces procédés sont bien connus, comme la réduction des volumes dans l'emballage. Le prix unitaire change, au litre, au kilo, mais pas celui du paquet ou du flacon habituel. Le client n'est pas censé s'en apercevoir, au moins pour celui qui n'y regarde pas de trop près. L'agroalimentaire recourt aussi au remplacement d'ingrédients, avec des composants de moindre qualité, ou à l'ajout d'eau avec un peu plus de sel. Cela dit, ces astuces restent marginales, semble-t-il. Les contrôles opérés par l'administration montrent que sur plus de 100 000 références de produits emballés, moins d'une centaine auraient été réduits en volume ou en recette. Pour les consommateurs qui gèrent rigoureusement leur budget course, la règle demeure la vérification du prix unitaire, au litre ou au kilo.
Il est 17h55 et c'est la fin de Marmite fait son actu. Tout de suite sur Marmite FM, vous retrouvez Le temps ne fait rien à l'affaire, suivi de l'Antisèche. L'équipe de l'Antisèche recevra ce soir la troupe du Crâne, qui est une troupe de théâtre de Couesnière et de Morpa. Je remercie Ronan à la technique pour cette émission et on se retrouve la semaine prochaine pour notre direct à 17h avec Nouradine Agne.
Marmite fait son actu tous les mercredis de 17h à 18h en direct sur Marmite FM 88.4. Retrouvez toute l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Revue de presse, cinéma, consommation responsable, agenda culturel et sportif, nos invités vous parleront de leur actu. Marmite fait son actu, une émission présentée par Nouradine Agne sur Marmite FM 88.4.